Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette histoire d'en savoir plus, nous allons essayer d'en savoir plus sur Robert Schumann, sur l'origine de l'Europe, avec M. Michel Bourgès-Menory, avec qui habituellement nous faisons l'émission Bienvenue en Europe. Voilà, mais je me suis dit, mais voyons, Michel était à, disons, dans les hautes sphères de l'Europe, et là, on a côtoyé des gens, et donc c'est peut-être intéressant d'en savoir plus, et pas simplement de connaître la vie politique de l'Europe d'aujourd'hui, mais peut-être de se tourner vers ces personnes qui ont... Parce que finalement, c'est improbable, quand on est Robert Schumann, que l'on est en Allemagne, quelque part, non, au Luxembourg, que la jeunesse est bercée par la guerre, enfin, c'est tellement improbable de penser que c'est lui qui sera le père de l'Europe.
Oui. Vous avez tout à fait raison, Raymond, de souligner ça. Il y a toujours des choses incroyables qui se produisent dans la vie. Si on regarde l'histoire, effectivement, il y a parfois des rebonds extraordinaires. Et ce personnage de Robert Schumann est véritablement un être vraiment exceptionnel. Et historiquement, il n'est pas né français.
Il est né... Alors, il n'est pas né français, puis il a servi de gouvernement de Pétain. Alors là aussi, indignité nationale.
Il a servi, il faut dire que là...
Non, un gouvernement qui n'a jamais fonctionné.
Oui, et on ne lui a pas demandé son avis.
Et, en plus, oui.
Il faisait partie du gouvernement précédent, et il a été reconduit sans qu'on lui demande ni sans qu'on lui dise. Et 3 jours après, il a démissionné.
Et il a été, c'est vrai, mais enfin, je veux dire
il a été arrêté après, en 42... Non, même avant, il a été arrêté par les Allemands, la Gestapo, qui l'a envoyé pendant plusieurs années en Allemagne, où il a été, alors j'ai plus les noms en tête, l'endroit où il était, après il a eu une mesure un peu d'adoucissement, il n'était plus dans une prison, mais dans une résidence surveillée, et en 1942, il a réussi à s'enfuir,
oui.
À s'évader, et aller en zone sud. Et là, il s'est notamment... Il a vécu jusqu'à la libération de la France en se cachant dans des abbayes. Et ça, il adorait aller, parce que c'est un catholique de naissance, pratiquement. Tout jeune, il était très engagé dans toute une série de courants catholiques. Et il adorait, même par la suite, sa vie... tout au long de sa vie, il continuait à fréquenter notamment les abbayes. Il adorait aller se recueillir et faire...
En retraite. Maintenant, c'est très à la mode, etc. Aller en retraite. Eh bien là, il faisait des retraites, là, lui, avant que ce soit à la mode. Mais c'est vrai que, oui, à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, enfin, dans un certain nombre d'abbayes ou de trappes. Mais oui, d'ailleurs, rappelons à nos auditeurs que finalement, ce n'est pas anodin que l'on parle de Schumann, parce que non seulement c'est la Convention d'Europe, ce sont les conventions de l'Europe, et je crois que ça, c'est très important, mais c'est aussi, il vient d'être déclaré vénérable. Alors effectivement, ça, vous faites allusion à ce catholicisme.
Oui. Le 19 juin, le pape François l'a déclaré vénérable, c'est-à-dire qu'il a reconnu, sur base du procès en béatification qui est en cours, procès canonique. Donc il a reconnu toutes les valeurs de Robert Schumann. Et d'ailleurs, il était intervenu, le pape, à plusieurs reprises pour montrer que par rapport à la construction européenne, eh bien, c'était très important de s'engager. Et à chaque fois, il aimait bien faire référence à Robert Schumann. Donc ça rentre dans la ligne de ce que l'on disait tout à l'heure. C'était... Robert Schumann était quelqu'un qui était un frontalier, comme on disait,
oui, parce que ça, des gens qui...
ça, c'est important de souligner que l'Europe a été construite par des personnes qui ont vécu, non pas en tant que... s'ils seraient nés du côté...
d'un côté ou de l'autre, de façon
ou de l'autre,
évidente.
C'est donc tous les gens qui se sont retrouvés au lendemain du Second Conflit mondial sont des personnes qui ont été, du fait de l'histoire et de ces guerres épouvantables qu'il y a eu,
histoire.
Et de leur propre histoire, ils ont été confrontés à véritablement le déchirement des frontières et de l'atrocité des conflits. Il faut dire que, alors on pourra revenir éventuellement sur plus, mais quand l'Europe a été construite, elle a été construite à l'initiative de Robert Schumann, bon, on parlera aussi de Jean Monnet, bien sûr, mais du côté de, l'autre, de l'Allemagne, c'était
Adenauer.
Et Adenauer, déjà en 1925, rêvait de construire une Europe et pas de la voir telle que, qu'elle recommence avec les dérives antérieures. De Gasperi, l'Italien, était également un frontalier qui avait connu des tas de déchirements. Et ils parlaient tous la langue allemande, hein, il faut dire. Schumann, sa langue première, c'est l'allemand.
Mais oui,
il a appris
qu'il
français.
Était nationalité allemande.
Il est né pendant la période où l'Alsace-Lorraine était revenue dans l'Empire allemand.
Faisait partie du Reichstag.
Et donc, le malheureux Schumann, il a connu, non seulement il est arrivé jeune homme à la guerre de 14, dit-il, où il a été évidemment enrôlé du côté des Allemands. Ensuite, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, il a pu voir déjà tout ce que représentait la guerre avec les frontières qui partaient dans un sens, dans un autre, le traité de Versailles.
Vente, la destruction,
et puis aussi la manière dont la Première Guerre mondiale s'était achevée par le fameux traité de Versailles. Et c'est ce traité de Versailles qui a conduit à, en quelque sorte, les Allemands à se dire c'est injuste, on va se venger. Et d'où, après, les courants nationalistes avec les nazis. Et le deuxième conflit mondial. Donc Robert Schumann est quelqu'un qui a connu les deux guerres. Et il a vu qu'est-ce que ça donnait. Et lui qui était un jour, il était luxembourgeois, le lendemain, il était allemand, le troisième, il était français, il a pu voir vraiment qu'est-ce que le côté invraisemblable et stupide de ne pas faire une unité, une solidarité entre les peuples qui, eux, devaient suivre les politiques, mais ils étaient enrôlés en quelque sorte.
Alors que lui faisait en fait l'unité en lui-même, l'unité dans sa propre personne, le fait que il était le même quand il était allemand et français et luxembourgeois. Dans le fond, c'était la même personnalité qui aspirait au bien ou à plus de justice, et ça, je crois que c'est aussi important.
Oui, et il était très, sur le plan personnel, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on voit surtout en Schumann un homme politique. Hein. Il a été plusieurs fois ministre, il a été deux fois président du Conseil, donc il a été président du Parlement européen,
oui.
Enfin, qui s'appelait l'Assemblée parlementaire à l'époque, l'ancêtre du Parlement européen, dans le cadre des traités sur la communauté européenne au départ. Mais sur le plan personnel, on n'en parle pas beaucoup. Alors il a écrit très peu, puis il ne parlait pas de lui-même. C'était quelqu'un qui vivait d'une manière assez incroyable. Il allait par exemple, comme il a été quasiment toute sa vie un homme politique, il était élu, un élu local, à côté de Metz, etc. Donc il était ancré dans son territoire. Mais quand il était ministre, il ne prenait pas de chauffeur, il prenait le bus. Et il commençait sa journée par une messe. Et il communiait. Le soir, il terminait également par des prières. C'était quelqu'un, mais vraiment, sur le plan privé, on ne le sait pas beaucoup, on en parle très peu.
Ben, son parti politique, le MRP, il y avait quand même les racines chrétiennes évidentes.
C'est vrai.
C'était Georges Bidault qui était là-dedans, il me semble.
Oui, enfin, oui.
Donc je pense que le christianisme faisait partie un peu de l'ADN du MRP.
C'est vrai.
Que maintenant, avec toutes ces histoires sur la laïcité, on a l'impression que les hommes politiques sont frileux pour dire « je suis chrétien ». Et bon, oui. Et puis aussi, bon, c'est peut-être que l'Église donne d'elle-même quelques paysages qui sont un peu douteux.
Mais enfin, en tout cas, bon. Au départ, ce que l'on appelle les pères de l'Europe, c'était des gens qui étaient très engagés. Donc ils voulaient, devant ce qu'ils ont vu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et tout ce qui, les périodes antécédentes historiques pendant des siècles, où tous les peuples de notre continent n'ont cessé de se battre, aller conquérir le territoire du voisin, etc. Et avec toutes les souffrances qui en suivaient pour les populations. Donc devant tout cela, évidemment, Robert Schumann s'est rendu compte que si on recommençait au lendemain de la dernière guerre mondiale, si on recommençait avec un traité comme celui de Versailles, eh bien, on était reparti pour recommencer comme avant. Donc il fallait absolument faire autre chose. Et il se trouve qu'à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères, et il faisait partie au niveau de la France, il allait la représenter, et notamment il a été à New York avec, alors j'ai oublié les noms maintenant des hommes politiques qui étaient à l'époque les parties prenantes, mais il y avait les Américains, les Britanniques, et lui, en tant que Français, il devait préparer une conférence qui devait se tenir le 10 mai 1950 à Londres, pour voir qu'est-ce que l'on ferait à l'avenir pour l'Allemagne. L'Allemagne qui devait avoir un premier gouvernement libéral, enfin libre, démocratique, etc. Et donc, c'est dans ce contexte, l'année 49, c'était cette année-là. Et en discutant avec les uns et les autres, il s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, mais il ne faut plus recommencer le traité de Versailles. Donc il faut faire autre chose, il faut avoir d'autres relations avec l'ancien ennemi, l'Allemagne.
Il y avait le contexte de l'Union soviétique quand même.
Et alors, parce il y avait le contexte de l'Union soviétique.
Voilà, on avait partagé l'Allemagne, chacun avait dit on va faire un gouvernement que l'on contrôle parce qu'on ne veut surtout pas voir resurgir le nazisme. Mais quand, en même temps, on ne voulait pas non plus que l'Allemagne de l'Ouest glisse dans l'orbite soviétique. Et je crois que ça a permis aussi d'avoir des vues un peu plus modestes quant à la politique, parce que la politique de l'Allemagne paiera, c'était tellement commode à la fin de la Première Guerre mondiale de dire « Ah, les pensions des veuves de guerre, l'Allemagne paiera. Ah, les infirmités, l'Allemagne paiera. » Et l'Allemagne n'a jamais payé parce que finalement, on s'est bien rendu compte que c'était impossible de payer les additions quand on avait pensé qu'il n'y avait que les additions.
Tout à fait.
Je crois que là, il y a aussi le contexte par chance. C'est culotté de dire par chance.
Oui, mais parfois, il y a des situations dramatiques face au bloc soviétique, n'oublions pas que l'Allemagne était coupée en deux aussi.
Voilà, c'est
Berlin était entouré, était partagé entre les grandes puissances.
Berlin était partagé et Berlin était au milieu de l'Europe, de l'Allemagne de l'Est.
L'Allemagne de l'Est, côté soviétique. Et donc, il fallait essayer de faire quelque chose aussi barrage. Et donc, Schuman s'est retrouvé comme. Par hasard, on peut dire, parce que le hasard, je n'y crois pas beaucoup quand on voit ce genre de choses, mais il s'est retrouvé sur le devant de la scène et il s'est dit, il faut faire quelque chose. Il a compris que du côté américain et britannique, ils étaient prêts à l'écouter, ils l'ont chargé en disant, proposez-nous quelque chose pour le 10 mai 1950. Et là, on était l'année d'avant. Et c'est là qu'en réfléchissant, il a rencontré justement un journaliste d'Alsace, de Strasbourg, Paul Colloval, que j'ai connu.
Oui, c'est ça. Je voudrais que vous nous parliez un peu justement de
ces deux aussi un journaliste assez incroyable, jeune journaliste au lendemain de la guerre. Il a été chargé de regarder la situation internationale. Et il rencontre Schuman et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire ?» etc. Et Schuman lui dit « Il faut vraiment imaginer quelque chose d'autre. Il faut développer la solidarité entre nos deux peuples. » Et Paul Colloval, qui était strasbourgeois, qui, lui, connaissait également l'allemand et qui avait été un frontalier, ça lui parlait. Et tout de suite, il s'est engagé et... Ça lui est toujours rappelé, il en parle dans ses écrits, Paul Colloval, pour dire, Schuman avait déjà compris qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'Europe le plus vite possible, compte tenu du contexte. Et là, on en revient à ce que vous disiez. Et il se trouve que, dans notre temps, donc là, c'était, je crois, en août 1949 qu'il avait rencontré Schuman et qu'il y a eu cette discussion entre ce jeune journaliste, Paul Colloval, et Robert Schuman. Et... quelques mois après, Robert Schuman demande aussi à Jean Monnet, qui était sur le plan français chargé de relancer.
Oui, c'était le commissaire européen.
Au plan français.
C'était au commissaire au plan.
Au plan français, et qui lui a fait, avec sa petite équipe, ils se sont mis à produire des idées et qui ont été dans le sens. Que voulait Robert Schuman. Et sur cette base-là, il y a eu 7 documents qui ont été proposés, et Robert Schuman en a fait un bloc, et il s'est dit, c'est ça qu'il faut proposer à la conférence de Londres. Mais il se trouve que le 10 mai, donc cette conférence de Londres, où le gouvernement français, donc lui, devait aller, il y avait un conseil des ministres la veille, le 9 mai 1950. Et donc, Robert Schuman... avec en poche son document qu'il avait, sur base de ce qu'avait proposé Jean Monnet, qui lui avait fait préparer tout, sur base des idées de Robert Schuman, il arrive au Conseil des ministres la veille dans le Conseil de Londres, présidé par Georges Bidault, et Robert Schuman n'a rien dit pour l'ordre du jour. Et puis, tout d'un coup, il dit on pourrait rajouter quelque chose pour... je suis prêt à rajouter quelque chose pour l'issue de pourvoir nos futures relations avec l'Allemagne. Donc, aucun ministre n'était préparé. Ce conseil commence à se dérouler. Parallèlement, Schuman avait, avant d'entrer dans la salle de réunion du Conseil des ministres français, donc toujours le 9 mai, il charge quelqu'un de son entourage qu'il avait au téléphone, qui était connu d'Adenauer, d'aller vite depuis l'Allemagne où il se trouvait à Bonn.
Demander à Adenauer ce qu'il
voulait. Adenauer, j'ai plus en tête maintenant le nom, et pas sous mes yeux, mais cet intermédiaire français, qui était évidemment un franco-allemand frontalier lui aussi.
Et qui parlait l'allemand couramment.
Évidemment. Il écrit un petit mot en disant « Robert Schuman veut vous proposer quelque chose, il a quelque chose à vous ». Il envoie un petit mot que l'huissier apporte sur la table, justement du conseil allemand, lui aussi, qui était en pleine discussion. Et puis Adenauer, voyant que Schuman, qu'il connaissait, voulait prendre contact avec lui... il envoie tout de suite, il arrête tout de suite son conseil des ministres, il se tourne vers l'autre, qui lui donne les papiers que Robert Schuman avait confiés à son intermédiaire, et il a trouvé ça, il a mis un petit mot, enthousiasmant, quelque chose comme ça, je suis d'accord, parce que, et alors vite, l'émissaire français appelle au téléphone, mais à l'époque c'était pas des portables et des choses comme ça,
il fallait pas aller
par des centrales et tout. Il appelle Paris, au Conseil des ministres de Paris, où se tenait l'autre réunion. Et puis Schuman, pendant ce temps, il regardait l'heure, pourvu que qu'est-ce qui se passe, vite. Et puis hop, arrive le message en disant Adenauer est d'accord, vous pouvez y aller. Et alors, du coup, il le présente au Conseil des ministres devant Bidault en disant « voilà ce que je propose ». Alors, il trace les grandes lignes. Et puis, Bidault n'osait pas trop s'avancer. Alors, il demande aux deux vice-présidents du Conseil leur avis. Et les deux disent « mais c'est très bien ça, mais oui, il faut aller de l'avant ». Et du coup, tout le Conseil des ministres a dit, sans même avoir rien lu, simplement sur base de ce que Robert Schuman avait dit, il dit « allez, on y va, c'est d'accord ». Et à l'issue du Conseil, on annonce à la presse qu'il va y avoir une grande conférence de presse avec vraiment quelque chose de spécial. Et c'est là que Kolowald, dont je parlais tout à l'heure, dit « bon, mais qu'est-ce qu'il en est ? Il n'avait pas de nouvelles ». Et puis c'est le lendemain où à Londres, tout est annoncé, et puis la conférence de presse se tient parce qu'il n'y avait pas eu le temps d'avoir ni de photographe ni de journaliste. C'est quelques temps après qu'on a pris une photo dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay avec le gouvernement français pour dire voilà, c'est là que la déclaration Schuman a été déclarée le 9 mai 1950. Mais en fait, il n'y a pas, pour la petite histoire, c'est une photo après coup. Et d'ailleurs, il y a sur la photo une table avec au milieu des intervenants, et ces intervenants n'étaient pas là pour le 9 mai, parce que dans le cadre du Conseil des ministres, il n'y avait pas de cette table-là. Or, cette table-là, ça a été la première réunion dans le cadre de du futur traité avec les autres. Donc, c'était un montage. Et donc, tout ceci est raconté dans les détails pour la petite histoire par ce jeune journaliste
que vous connaissez.
Paul Kolowald, que je connais, qui est toujours en vie et qui a 98 ans à l'heure où je vous parle, qui est sur Strasbourg et qui a été porte-parole à la Commission européenne,
qui s'est engagé pour l'Europe.
Il a été après chargé de l'information au Parlement européen, etc. Donc il y a la grande histoire et puis il y a la petite histoire. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est souvent sur un coup de baguette magique que, toc, les choses peuvent se lancer. Et le fil conducteur, et là on rejoint sur la pensée profonde de Robert Schuman, ce qui comptait, c'était évidemment la paix, comment la construire, par la solidarité. Et alors, je vous dis juste une phrase qui figure dans son discours sa déclaration, la fameuse déclaration Schuman, il dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Et donc, sachant qu'à l'époque, c'était très, très inouï de
c'était
mettre sur la table le charbon et l'acier, ce sont les industries qui sont derrière l'armement de la France et de toutes les puissances. Et donc, pour empêcher qu'il y ait une nouvelle guerre, on les retire de la compétence des États, on le met dans
en
un
commun.
Système en commun qui est géré en commun. Et
c'est
donc,
ça
c'est
qui,
comme ça. Ça
c'est ça qui est quand même extraordinaire.
Extraordinaire.
C'est ça que je voudrais qu'on insiste là-dessus, parce qu'on met en commun le charbon et l'acier, alors qu'on voit actuellement dans l'Europe telle qu'elle s'est dessinée, un certain nombre de pays qui n'ont pas voulu adhérer parce qu'eux avaient un peu de pétrole dans leurs eaux, dans leurs propres eaux. Donc on ne va pas entrer dans l'Europe parce qu'on ne on va garder pour soi les richesses. Alors c'est, en gros, on va mettre en commun les difficultés, puis on va garder pour soi ce qui est positif. Alors que là, et c'est ça qui me paraît intéressant, cette démarche politique qui dit on met en commun ce qui fait notre force, on met en commun et on cherche le bien commun des Européens. Je trouve ça génial et je trouve que c'est là-dessus qu'il faut
tout à
revenir.
Fait, cette idée-là a été reprise à chaque fois qu'il y a eu des avancées ensuite. Depuis cette fameuse déclaration du 9 mai 50, je repense bien sûr à ce qui a été proposé de mettre en commun la défense. Il faut dire que là, c'était une catastrophe quand il y a eu un projet de traité européen qui a été refusé en 1954.
La France se soumet et c'est le gouvernement français qui refuse.
Qui refuse sous pression des nationalistes de l'époque. Donc on ne va pas s'attarder à ça parce qu'on n'aurait pas le temps, mais on pourrait y consacrer une autre émission, si vous voulez, un jour. Mais ce que je voulais juste souligner, c'est que cette idée de Schuman, au départ, cette solidarité qu'il faut créer, de mettre en commun pour le bien commun, eh bien, on le retrouve, par exemple, quand Jacques Delors est venu pour relancer également. Donc il fallait mettre en commun tout ce que l'on pouvait pour que les frontières et le commerce puissent se passer. Quand on met en commun les monnaies, quand on met tout ça, c'est à l'époque de Jacques Delors qui a lancé tout ça. Et donc là, j'étais présent, j'ai pu le vivre à Bruxelles, donc je sais comment c'était fait, c'était pas facile. Quand il y a lancé, mettre en commun l'éducation à travers le programme Erasmus, tout cela, c'était aussi à cette époque-là, c'était pas évident. Quand actuellement, devant tout ce qui se passe avec la pandémie et même avant, il y a eu, avec l'arrivée de la nouvelle présidente de la Commission européenne, allemande, von der Leyen, aussi, pour mettre en commun plus à travers le problème de la santé, ce sont les États qui, là, se sont dit, tiens, ce serait quand même pas plus mal de se mettre en commun pour au moins...
Alors que c'est eux qui avaient, justement, par le traité de Lisbonne, refait...
Donc, enfin, cette idée de bien commun, on le retrouve là aussi dans l'Évangile, on le retrouve, ça rejoint tout à fait la ligne de pensée de Robert Schuman.
Robert Schuman vénérable. Justement, j'avais trouvé que c'était intéressant parce que, permettez-moi de lire ça, cette production, il s'agit du charbon et de l'acier, sera offerte à l'ensemble du monde sans distinction ni exclusion pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. Mais ça, c'est encore d'actualité.
Tout
L'Europe
fait.
Pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Mais quand je vois les difficultés que l'on a simplement à penser que le vaccin peut aller aussi chez les autres, et alors déjà, pour soi, on ne veut pas être vacciné parce que, ah là là, si par hasard, bon, je ne sais pas quoi, il y a eu quelques personnes qui ont eu des difficultés, il y en a eu 9 sur 3 millions, alors bon, c'est tout de suite, ah, bon. Et là, cette... poursuivre la réalisation de l'une des tâches essentielles, le développement du continent africain. C'est actuellement le continent qui est soumis à la famine. Enfin,
il
sera réalisée la
incroyable.
Fusion d'intérêts indispensables à l'établissement d'une communauté économique. Bon, je crois que là, vraiment, il faut relire le discours de l'horloge. Il faut relire, enfin, si j'ose dire, c'est les bases. Ce sont les bases.
Et si les auditeurs aussi peuvent se tourner. Il n'y a pas eu beaucoup d'écrits de Robert Schuman, indépendamment de ses discours politiques. Et il y a un livre qui s'appelle « Pour l'Europe ». Et dans ce livre, on a toutes sa pensée, et y compris son rapport avec le christianisme. Le christianisme a enseigné l'égalité de nature de tous les hommes, enfants d'un même Dieu, rachetés par le même Christ, sans distinction de race, de couleur, de classe, de profession. Et donc lui, il a milité vraiment pour de futurs États-Unis d'Europe. Et donc, on est, si on veut garder, être sur la même longueur d'onde, et bien, ces États-Unis d'Europe, il faut encore les construire. Mais les construire à travers... évidemment, quand l'histoire nous le permet, d'avancer, mais qui soit...
D'avancer humaniste. Finalement, il y a pas mal de gens humanistes en Europe, et c'est peut-être une chance. C'est quand même cette... on sent là que, par rapport au vaccin, justement, quand la santé vacille pour tout le monde, les gens se sont dit « Oh là là, il faut faire quelque chose ensemble ». Donc, on a là quelque chose qui est très, très important. Parmi les autres pères de l'Europe, il y avait Jean Monnet. Alors, non, mais parlons un peu avec votre collègue... ce journaliste, il y a peut-être d'autres anecdotes que vous pouvez nous livrer à Radio Grand Ciel pour ces temps de...
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému lorsque j'étais à Bruxelles, parce qu'il y a un côté symbolique, et c'était justement à l'arrivée de Jacques Delors. Et là, c'était de donner à la communauté européenne... Donc, il était fusionné les trois communautés d'origine en une seule, et puis ensuite c'est devenu l'Union européenne actuelle. Mais ça a été l'hymne européen, l'hymne à la joie de Beethoven, la 9e symphonie, un morceau de la 9e symphonie qui a été retenu.
Pour le musicien que vous êtes, c'était bien.
Et le drapeau européen qui était. Celui du Conseil de l'Europe au lendemain de la guerre, et donc qui était un symbole. Donc, au niveau de la petite histoire, c'est pas de la petite histoire, mais c'est simplement, j'oublierai jamais cette matinée quand tout cela, il y a eu le lever des couleurs, les drapeaux sur la place qu'on dit Schuman, qui est le rond-point Schuman, où se trouve le bâtiment de la Commission européenne. Le Berlaymont, et donc il est situé place Schuman, Robert Schuman, et donc à Bruxelles, et avec ces drapeaux qui sont le drapeau européen qui est arrivé, qui a été levé, l'hymne à la joie et tout, et je dois dire...
Vous étiez présent.
J'étais présent avec tous mes autres collègues autour de Jacques Delors, et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Bon, c'est une petite histoire. Bon, après, il y en aura d'autres, hein, mais enfin, voilà. Mais celle-là, elle m'a toujours marqué, parce que je crois que les symboles, quels que soient les faits, sont importants. Et précisément à une époque où, actuellement, où on, quand on parle d'Europe, généralement, les gens se disent bon, est-ce que ça sert à quelque chose ? Et il y a un rebond des nationalismes en disant c'est d'abord la France, c'est d'abord l'Allemagne, c'est d'abord, etc., etc. On oublie toutes les leçons, non seulement du passé, mais aussi le fait... que précisément, il faut des symboles pour que le grand public aussi puisse prendre conscience. Cette appartenance, on fait tous partie de ce continent. On est unis et solidaires. Et là, c'est très important de le rappeler. Et donc, il y a un côté également utile.
Donc, merci d'être venu à Radio Grand Ciel pour rappeler vos souvenirs, d'une certaine manière. Et puis, pour rappeler que, finalement, cette Europe qui s'est construite... pour faire la paix. Maintenant, on a tellement l'impression que la guerre, c'est loin, que la guerre est impossible. C'est quand même, là aussi, peut-être, faut-il rappeler que c'est construit par des gens qui ont souffert dans leur vie, dans leur chair, dans l'espace géographique de ces frontières, et que peut-être on a intérêt à regarder simplement les cartes du monde et voir que lorsqu'on a un emplacement, un espace où la paix se poursuit, eh bien, sauvegardons-la. J'ai du mal à dire le mot de la fin. Aux auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous, bonne suite, et puis, regardez l'Europe.